Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Entre psychose et dose d'espoir, le nouveau coronavirus continue ce matin à s'étendre à travers le monde. 2700 morts en Chine, 40 dans le reste du monde, plus de 80 000 contaminations au total. Pour un expert de l'OMS, le monde n'est tout simplement pas prêt à faire face à cette épidémie. Mais en France, comme en Chine, les médecins pensent qu'il existe un moyen simple et peu coûteux pour traiter le coronavirus. Utiliser la chloroquine qui sert d'habitude contre le paludisme. Explication dans un instant.
Les funérailles aujourd'hui. Aujourd'hui de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak.
Le raïs balayé en 2011 par le printemps arabe, emprisonné puis acquitté, il est mort hier à l'âge de 91 ans au Caire. Deuil national de 3 jours à partir d'aujourd'hui en Égypte.
Et puis à la une encore, la classe politique britannique accusée d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels sur les enfants.
Et des affrontements entre des centaines d'habitants de Lesbos et de Chios et des forces anti-émeutes hier en Grèce sur fond de controverses autour de nouveaux camps pour les migrants sur ces îles de la mer Égée.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, Catherine, dans quelles conditions est-il possible d'utiliser le 49.3 ? On posera la question à Arnaud Lepilouer, il est professeur de droit public à Paris-Nanterre.
Si l'épidémie de coronavirus pourrait avoir atteint son pic en Chine, où elle a contaminé quelque 78 000 personnes, dont plus de 2 700 sont mortes, la pneumonie virale touche de plus en plus de pays, y compris en Europe. 2 nouveaux cas recensés en Allemagne, 332 personnes contaminées en Italie, où 11 personnes sont mortes de la maladie, selon un tout dernier bilan. 3 nouvelles régions sont désormais concernées, la Ligurie, la Toscane et la Sicile. Mais pas question pour autant de fermer les frontières aux pays voisins de l'Italie. Ce serait une erreur, une mesure disproportionnée, ont indiqué les ministres de la Santé italiens, français, suisses, autrichiens, slovènes et croates à l'issue d'une réunion hier à Rome. Depuis Genève, le chef de la mission de l'OMS qui s'est rendu en Chine prévient lui, le monde n'est pas prêt à faire face à cette épidémie. Toujours pas de vaccin, certes, mais un traitement a déjà fait ses preuves, tempère Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille. Il s'agit de la chloroquine, d'habitude utilisée contre le paludisme, efficace désormais contre le coronavirus, explique Didier Raoult.
Moi, j'attendais avec une extrême impatience qu'il y ait des essais cliniques qui rapportent l'efficacité que l'on préjugeait au laboratoire. Et donc maintenant, c'est fait. On a tous les éléments. Il y aura peut-être des ajustements sur la dose qu'il faut donner, le temps qu'il faut donner. On ne sait pas si ça marche en prophylaxie, c'est-à-dire les gens qui sont porteurs et pas malades, est-ce qu'on peut leur donner pour éviter d'être malade ? Et c'est tout un champ nouveau qui s'ouvre, si vous voulez, qui fait que dès demain, ça deviendra impossible de ne pas donner de la chloroquine à quelqu'un qui sera hospitalisé avec cette maladie. C'est extrêmement bon marché, la pilule coûte 10 centimes, le traitement marche vite et on utilise des médicaments dont on connaît déjà toute la sécurité, qui sont la plupart du temps des médicaments génériqués, donc qui ne coûtent pas cher du tout. Et donc on a des solutions très rapides, parce qu'on n'a pas besoin de passer par les tests ni de toxicité, ni d'enregistrement. C'est des médicaments qui sont disponibles à la pharmacie.
Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, il répondait à Julien Langlais. Le ministère de la Santé a de son côté annoncé hier soir 2 nouveaux cas de coronavirus, portant à 14 le nombre de malades en France depuis début janvier. Le nombre d'hôpitaux susceptibles d'accueillir des malades va bientôt passer de 38 à 70 établissements et la capacité d'organiser des tests de dépistage va elle aussi augmenter, Tara Schlegel.
La France peut pratiquer environ 400 tests par jour. Les laboratoires vont monter en puissance, de même que les hôpitaux qui doivent pouvoir effectuer des diagnostics en interne, explique Bruno Lina, virologue aux Hospices Civils de Lyon.
C'est indispensable. Si au laboratoire de viro à Lyon, on est en train de monter une capacité diagnostique de plus de 300 cas par jour. Dans ces conditions, on pourra répondre à la demande pour faire le suivi des patients en essayant de soulager au maximum les hôpitaux, parce que si les patients doivent attendre dans les hôpitaux les résultats, ça embolise les places potentiellement utilisables par les cas qui seraient réellement infectés. Et donc, on a besoin d'avoir un circuit rapide du diagnostic pour qu'on ne garde que ceux qui sont malades et qu'on libère très rapidement ceux qui ne le sont pas.
Lundi, à Lyon, un bus en provenance de Milan a été immobilisé et le chauffeur italien immédiatement pris en charge.
Toute cette chaîne qui commence de zéro quand on a un bus qui arrive dans une gare a pris en gros 6 heures. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été assez rapide.
Les analyses ont été négatives. Les passagers du bus libérés. L'ensemble des voyageurs en provenance des zones sensibles d'Italie sont invités à rester confinés 14 jours chez elles. C'est une mesure de bon sens et d'après le virologue Bruno Lina, les autorités ont raison de ne pas affoler la population.
Moi je veux bien qu'on évoque une épidémie potentielle parce que c'est une réalité. Il se passe effectivement des choses dans nos pays voisins, donc on peut s'agiter beaucoup et prendre des mesures barrières. C'est très utile pour les autres virus respiratoires. On voit qu'on a passé le pic épidémique de la grippe beaucoup plus rapidement que prévu grâce à toutes ces mesures d'hygiène et de barrières, ce qui est très bien. Mais à cette heure et à ce jour, il n'y a pas d'épidémie en France.
Mais le médecin reste vigilant. Tout va dépendre de la capacité de diagnostiquer et d'isoler rapidement les futurs cas qui ne manqueront pas de se présenter.
Eux avaient pourtant été autorisés à débarquer du navire de croisière Diamond Princess testé négatif au coronavirus. 45 passagers présentent finalement certains types de symptômes au Japon. C'est ce qu'ont annoncé ce matin les autorités, vivement critiquées par ailleurs pour leur gestion de la crise sanitaire. En Corée du Sud, à présent, le nombre de malades a bondi à 1146 cas contre un peu moins de 900 hier. Un soldat américain a été testé positif au nouveau coronavirus en Corée. Et sur le sol même des États-Unis, les autorités sanitaires encouragent désormais les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à prendre des mesures de protection comme l'annulation d'événements publics. Le coronavirus encore qui inquiète le monde économique. L'UNEDIC, le régime d'assurance chômage, a présenté hier ses prévisions financières et table sur un retour dans le vert l'an prochain seulement. Le gouvernement, qui espérait un excédent plus rapidement, en sera donc pour ses frais, Catherine Pétillon.
Après un déficit de 900 millions d'euros, le solde financier deviendrait excédentaire de 2,3 milliards d'euros en 2021, puis de 4,2 milliards en 2022. Cette même année, la dette commencerait à baisser. Des prévisions qui évoluent très peu depuis les dernières en novembre, en raison des projections d'emploi et du contexte international. L'UNEDIC en souligne le caractère incertain. Il y a les conséquences du Brexit ou, plus récemment, le coronavirus. Il faut dire que les finances de l'UNEDIC sont particulièrement sensibles aux fluctuations économiques, puisque ses recettes dépendent de la masse salariale et ses dépenses du nombre de chômeurs. Autrement dit, quand ça va mal d'un côté, l'emploi et donc les recettes diminuent et en même temps, les demandeurs d'emploi et donc les indemnités à payer augmentent. Tout cela fait que l'assurance chômage est trois fois plus sensible que la sécurité sociale et l'assurance vieillesse aux variations de la conjoncture. L'UNEDIC anticipe également une poursuite de la baisse du taux de chômage qui passerait de 8,1 à 7,4% en 2022. En revanche, il est trop tôt pour mesurer les effets de la récente réforme de l'assurance chômage. Il faudra pour cela attendre l'été. Rappelons que les économies étaient l'un des arguments de l'exécutif pour modifier les règles d'indemnisation. L'autre grand inconnu, c'est bien sûr les effets de la future réforme des retraites.
La réforme des retraites source de nouvelles tensions hier soir à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité ont déserté l'hémicycle pendant une demi-heure pour protester contre l'obstruction et une litanie d'amendements sans aucun intérêt, disent-ils, de la part des insoumis et des communistes. De son côté, l'opposition a dénoncé du cinéma et une atteinte au droit, justement, d'amendement.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Fariba Adelra, la chercheuse française détenue depuis juin dernier en Iran, a été hospitalisée.
L'état de santé de cette anthropologue renommée s'est détérioré, conséquence sans doute de la grève de la faim qu'elle avait menée. Et les autorités iraniennes ne lui ont pas fourni de traitement adéquat, estime son entourage, alors que son procès est celui d'un autre universitaire, Roland Marshall, lui aussi prisonnier à Evin en Iran, est prévu mardi prochain. Le bilan des violences intercommunautaires à New Delhi s'est aggravé ce matin à 17 morts. Plusieurs quartiers de la capitale indienne sont depuis dimanche le théâtre de scènes de guérilla urbaine. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois même de pistolets sèment le chaos et la terreur dans des zones périphériques à majorité musulmane du nord-est de New Delhi. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Direction la Grèce à présent, où des affrontements ont eu lieu hier entre des forces de l'ordre et des centaines d'habitants de Lesbos et de Chios, opposés à la construction de nouveaux camps pour les migrants sur ces îles de la mer Égée. Une dizaine de blessés, 2000 policiers des forces anti-émeutes appelés en renfort. Le reportage d'Angélique Coronis.
Café chaud à la main, couverture sur le dos et cigarette au bec, une grande partie des habitants des îles de Samos, Chios et Lesbos ont passé leur deuxième nuit sur le pied de guerre, sur les barrages dressés, aux abords des terrains réquisitionnés pour la construction des nouveaux camps fermés pour migrants. Pas très loin, surarmées, les forces anti-émeutes veillent. Dépêchées sur place avec des canons à eau, elles attendent les ordres. Ils sont clairs, les travaux doivent continuer coûte que coûte. Manos ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, pas question de laisser passer les bulldozers.
On ne veut aucun camp. On veut le désengorgement de l'île. On est en tout et pour tout 100 000 habitants ici. Et ils veulent nous mettre 50 000 réfugiés. Pourquoi ?
Malgré les grenades assourdissantes et les gaz lacrymogènes, le pop de la région, le père Christos, assez âgé, est en première ligne. Il soutient ses ouailles.
On va se battre. Ils ont les armes, mais on a notre âme et notre courage.
À Athènes, le vice-ministre de l'immigration, Manos Lorothetis, défend la position du gouvernement.
On a vu des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des cocktails Molotov, des jets de pierre, beaucoup de colère. Elle est justifiée car ces îles sont sous pression, elles souffrent depuis longtemps de cette crise migratoire. On comprend et on s'y attendait, mais pas à ce degré-là. Et c'est pour cela qu'on a envoyé des forces de police conséquentes, et je crois que jusqu'à présent on a bien géré l'affaire.
Chios, Lesvos et Samos ont décrété aujourd'hui une journée de grève générale. Toutes tendances politiques confondues, la majorité des habitants de ces îles se déclarent prêts à se battre jusqu'au bout pour leur terre. Tout le monde sur ces îles exige le départ définitif des migrants de l'île et la fermeture des camps.
Angélique Kourounis en Grèce pour France Culture. Un deuil national de 3 jours en Égypte à partir d'aujourd'hui, jour des funérailles militaires pour l'ancien président Hosni Moubarak, le maître absolu de l'Égypte pendant 30 ans. Celui qui a été balayé en 2011 par le printemps arabe, emprisonné puis acquitté, est mort hier à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire du Caire. Les institutions politiques britanniques ont couvert pendant des décennies les agressions sexuelles d'enfants au Royaume-Uni. C'est la conclusion d'une enquête indépendante menée depuis 2015 après la mise en cause de Jimmy Savile, ex-star de la BBC, accusé avant sa mort de plusieurs centaines d'agressions sexuelles. Les précisions à Londres d'Antoine Gignot.
Ce n'est pas un réseau pédophile. Il n'y a pas de lien entre les différents hommes politiques accusés d'agressions sexuelles et de viol, expliquent les enquêteurs. Mais les ministres, les parlementaires, les responsables des partis ont pendant des décennies fermé les yeux face aux abus sur des enfants, allant jusqu'à protéger leurs auteurs. Le rapport cite des noms, celui de Peter Morrison, député, secrétaire parlementaire de Margaret Thatcher, anobli en 1991, alors que les responsables du Parti conservateur savaient qu'il avait commis des actes pédophiles. Et celui de David Steele, ancien chef du Parti libéral, qui, après avoir reconnu des abus sur des adolescents, a continué sa carrière politique jusqu'à siéger à la Chambre des Lords. Il vient de présenter sa démission. Sur 173 pages, les enquêteurs expliquent le mécanisme. Face aux responsables politiques, la police n'a guère prêté d'attention au bien-être des enfants, notamment dans les années 60, à une époque où les grosses berlines faisaient le tour de Piccadilly Circus pour tenter de faire monter à bord de jeunes adolescents.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. À suivre dans le journal de 7h30, un débat musclé aux États-Unis dans la primaire démocrate. Bernie Sanders sous le feu des critiques, vous l'entendrez. Le temps de ce mercredi 26 janvier dominé par la pluie dans l'ensemble du pays. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 5 degrés sur la moitié est de l'Hexagone, de 2 à 7 à l'ouest, jusqu'à 11 près de la Méditerranée. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutulle.